Turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 11 and verse 30.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 30. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 30. S'il faut se glorifier, je me glorifierai de mes infirmités. Et notre sujet sera le suivant, le but des souffrances de Paul. Il y a quelques semaines, nous avons considéré la liste extraordinaire des souffrances de l'apôtre Paul. Et je vais vous rappeler, à partir du verset 23, « Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en imprudent, je le suis plus encore. Plus je le suis par les travaux, infiniment plus par les blessures, plus par les prisons, souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verges, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer profonde. J'étais souvent en voyage, en danger sur les fleuves, en danger de la part des voleurs, en danger parmi ceux de ma nation, en danger parmi les non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les faux frères. Dans les peines, dans les travaux, dans de fréquentes veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et dans la nudité. Et chaque jour, sans parler des autres choses, je suis assiégé par les soucis de toutes les églises. Et ensuite le verset 30, « S'il faut se glorifier, je me glorifierai de mes infirmités. » L'apôtre Paul et toutes ses souffrances, nous avons considéré ces choses et nous en sommes arrivés au premier but il y a quelques semaines. Les souffrances de l'apôtre Paul, de manière évidente, sont là pour l'authentifier en tant qu'apôtre. Un messager particulier de Dieu, celui qui a inauguré la grande mission parmi les non-juifs. Il avait d'autres signes qui montraient qu'il était apôtre. Nous avons considéré ces choses. Personnellement, il a été envoyé par Christ, comme tous les apôtres. Seuls ces apôtres, à l'origine, les 11 apôtres, plus l'apôtre Paul, ce sont là les apôtres. Il n'y en a pas d'autres. Il a rencontré le Seigneur ressuscité, et par la puissance du Saint-Esprit, il pouvait faire des signes et des miracles et des prodiges qui l'authentifiaient en tant qu'apôtre. Il a été accepté par les autres apôtres également. Et dans une grande mesure, il avait le don de la prophétie. Et il était inspiré de Dieu pour écrire la révélation de la parole de Dieu. Et il est authentifié, nous dit l'Écriture, par ses souffrances. Même quand il a été mis à part par le Seigneur, par son serviteur Ananias, il savait que la souffrance serait l'une des caractéristiques, des indications clés de sa mission, de son appel, et il a souffert terriblement durant sa vie, plus que les serviteurs de Dieu ne souffrent, d'une manière générale, bien plus que nous sommes appelés à souffrir. Pourquoi ? Parce qu'il a été tellement utilisé par le Seigneur, et en particulier dans sa révélation. Et toute cette partie du Nouveau Testament qui nous est donnée par l'apôtre Paul, et alors que nous voyons ceci, nous voyons tous les signes qui l'authentifient, ceci vient de Dieu, et en accord avec les prophéties, il a souffert. C'est une indication, et il nous dit ceci dans ce verset 30. Et au chapitre 11, verset 23, « Sont-ils ministres de Christ ?» Point d'interrogation, comment savons-nous ? Est-ce qu'ils ont souffert ? Tous les serviteurs de Dieu, dans une certaine mesure, vont devoir souffrir, parce que c'est l'offense de la croix, et on se moquera d'eux. Je parle en imprudent, il ne veut pas parler de lui-même, il le fait de manière réticente. « Je le suis plus encore. » Et il présente ses souffrances comme étant une caractéristique clé qui montre son ministère, son appel. Et c'est ainsi qu'il commence cette liste. Il nous le dit lui-même, que ceci fait partie de cette caractéristique qui l'authentifie en tant qu'apôtre. Mais j'aimerais en arriver à d'autres raisons ce matin. La deuxième raison, c'est de montrer le cœur de cet homme. Ses souffrances nous montrent son cœur. Et je vais lire dans 2 Timothée, au chapitre 2, au verset 9 et 10, « Pour moi, je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est point liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'ils obtiennent aussi le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Ses souffrances mettent à la lumière son cœur. Pourquoi est-ce qu'il fait tout ceci? Pourquoi est-ce qu'il continue? Sans aucun doute, alors qu'il s'approchait de grandes villes, peut-être Athènes ou Corinthe, le diable allait murmurer à son oreille « Paul, ne continue pas, ne va pas dans cette ville, ne va pas dans cet endroit. » Parce qu'il y a une grande communauté juive ici, et ils sont si patriotiques, et plus que ailleurs. Et ils vont te persécuter, ils vont monter la foule contre toi, et tu seras torturé, battu, arrêté, fouetté, emprisonné. Et tout ceci était à l'esprit de l'apôtre Paul, mais le Saint-Esprit allait lui dire « Continue, Paul, Dieu est avec toi, ces choses vont se passer. » Il nous le dit ailleurs, le Saint-Esprit dans chaque ville l'avertit que ces choses vont se passer. Et là, vous pouvez imaginer qu'il y a ces voix qui sont en conflit dans son cœur. Cette voix qui lui dit « Ne va pas » et la voix de Dieu qui dit « Vas-y » et qui l'envoie. Et c'est ce qu'il fait. Et quelle est sa pensée à son esprit? Là, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 9 et verset 10, « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. » Dieu a un peuple élu dans cet endroit. Et je suis appelé à y aller, peu importe ce qui va se passer, et à prêcher l'Évangile pour les gagner à Christ, parce qu'il y a ceux dans le cœur de qui il y aura une œuvre de grâce puissante, et ils seront amenés au Seigneur et ils vont l'aimer, l'expérimenter, le servir. Et j'ai le privilège de faire partie de cette œuvre, je le fais pour eux. Ces souffrances nous donnent l'occasion de voir son cœur et ce qu'il ressentait. Et ceci est si précieux et important pour nous, de montrer le cœur de l'apôtre Paul. Et je peux lire dans Colossiens, chapitre 1, verset 24, un verset mystérieux. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et j'achève de souffrir en ma chair le reste des afflictions de Christ pour son corps qui est l'Église. Ces souffrances révèlent son cœur. Dans une autre manière également, l'Église de Rome prend ce verset et l'interprète d'une manière si mystique, et dit que certaines personnes sont appelées à souffrir, certains saints, et ainsi, en faisant cela, il partage, il montre les souffrances de Christ. Oh, ce verset ne dit pas ceci, c'est complètement un non-sens, c'est une interprétation complètement erronée. Ce que ce verset dit, ce n'est pas que les souffrances de Paul sont pour nous ou n'accomplissent quoi que ce soit pour notre salut, non. Mais c'est pour un autre but, et ceci est expliqué clairement. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, c'est la persécution. Et j'achève de souffrir en ma chair le reste des afflictions de Christ. Christ a tout accompli. Dans sa mort expiatoire, sa souffrance pour les péchés de ses enfants, il n'y a plus rien à faire, tout est accompli. Et c'est là ce qu'il a dit à la croix du calvaire, l'œuvre de rédemption est complètement accomplie et complètement finie. Il n'y a rien qui peut être comparé à la souffrance de Christ. Dans les souffrances de l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il veut dire dans ce verset quand il dit « Et j'achève de souffrir en ma chair le reste des afflictions de Christ pour son corps ». Il se réfère ici, bien sûr, à l'offense de l'Évangile. Christ a souffert non seulement à la croix du calvaire pour expier les péchés des pécheurs, mais il a souffert le rejet durant sa vie parce que les gens le haïssaient et haïssaient sa prédication. La repentance et la rémission des péchés, c'était une offense pour eux. Ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de ce message et ils le haïssaient. C'est là l'élément de la souffrance de Christ. Nous souffrons pour son nom, pour lui, parce que nous portons son message. Lui, il a tout accompli. Le salut, nous ne pouvons pas partager de souffrance en cela d'aucune manière, mais nous proclamons son message qui est un message qui est une offense pour les gens. Ainsi, il y a une persécution qui continue, une souffrance. Et ceci, nous devons l'endurer. Pourquoi? Pour l'Église. Parce que si l'Évangile n'était pas prêché, s'il n'y avait pas une offense, une réaction contre l'Évangile, il n'y aurait pas non plus de réaction de salut dans le cœur de ceux qui sont sauvés, dans le cœur de qui l'Esprit-Saint œuvre. Ainsi, l'apôtre Paul dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et j'achève de souffrir en ma chair le reste des afflictions de Christ pour son corps qui est l'Église, pour le salut des élus. C'est très clair. Mais pour nous, c'est important de souligner « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances ». Oh, c'est extraordinaire de se réjouir dans les souffrances, dans les persécutions. Parce que, comme l'apôtre Paul, vous voyez que le Saint-Esprit va l'utiliser. Et les gens seront touchés et vont chercher le Seigneur et ils seront sauvés. Ainsi, il y a un but, non pas un but de rédemption. Et ceci montre son cœur. Et mon troisième point est le suivant. Les souffrances de l'apôtre Paul, oui, bien sûr, montrent ses limites humaines. Et c'est important pour nous que d'accepter ceci. Il n'était pas un homme supérieur. Oh, l'apôtre Paul était un grand intellectuel, oui, un intellectuel juif. Mais Dieu l'a humilié, l'a transformé. Il n'était pas réellement équipé pour sa tâche. Aucun être humain n'aurait pu l'être. Il semble, nous voyons ceci dans l'Écriture, qu'il était plutôt fragile. Et ceci était rendu pire par ses souffrances, ses afflictions. Et il appelle ceci les blessures dans son corps, non pas simplement des blessures physiques, mais c'était toute sa santé qui était touchée par cela. Sa vue était affectée d'une manière ou d'une autre. Et c'était si difficile. Et cependant, il voyageait grandement, mais il n'était pas un homme fort ou solide ou un homme supérieur d'aucune manière. Il y a bien des années, j'étais avec un groupe de pasteurs et l'un d'entre eux a dit ceci. Et c'était un homme qui était très sincère. Et il a dit, « Oh, pour un autre George Whitefield, quelqu'un comme George Whitefield, quelqu'un avec sa puissance unique, quelqu'un avec son éloquence extraordinaire, oh, quelqu'un qui pourrait parler à de grandes foules et que les foules soient là à l'écouter, oh, pour une telle personne, un autre George Whitefield, aujourd'hui. » Et moi, j'étais un peu surpris par ceci, à ce moment-là, parce que, même si j'étais jeune, je lisais un livre par rapport aux prédications de George Whitefield. Peut-être que vous avez lu un livre par rapport à George Whitefield, ce grand prédicateur qui a prêché en 1739, pour la première fois pas loin d'ici, un matin d'octobre où il y avait du brouillard. Et quand vous lisez ces prédications, vous dites « Oh, ce sont des bonnes prédications, qui sont bonnes doctrinalement, mais il semble se répéter et commencer un point, et ensuite il est distrait par autre chose, et ceci demandait beaucoup de concentration pour le suivre. Oh, vous pouvez voir la rédemption, vous pouvez voir l'Évangile, et tout le raisonnement et les arguments pour l'Évangile, c'est merveilleux, mais si vous cherchez quelque chose qui, pour vous, est de l'éloquence ou qui va amener de grandes foules à l'écouter, vous ne voyez pas ceci dans ces prédications. Et ensuite, vous lisez comment il est décrit. Il était un homme qui avait son habit de clergé. Il s'exprimait bien, apparemment. Il parlait de manière très vivifiante. Il était plutôt statique, il ne pouvait pas bouger beaucoup parce qu'il était sur une estrade qui était plutôt petite, à peu près 30 cm sur 30 cm. C'était un homme remarquable, oui, mais ne dites pas « Oh, nous avons besoin d'un autre George Whitefield, une telle personne ». C'était un homme plutôt normal, mais c'était le réveil, c'était la puissance du Saint-Esprit déversée sur un instrument de Dieu, et de même pour l'apôtre Paul. Il n'était pas particulier, il n'était pas solide et fort. Son message était simple, mais cependant, ils disent, il n'était pas un orateur particulier. Les Grecs n'aimaient pas sa prédication du tout. Et il était persécuté et il était malade. Mais l'Esprit de Dieu était avec lui. Les souffrances de l'apôtre Paul nous aident à ne pas le mettre, lui, personnellement, sur un piédestal. Ce n'est pas la capacité de l'apôtre Paul. Les souffrances montrent ses limites humaines. De nos jours, si seulement les gens pouvaient comprendre. De nos jours, même beaucoup de prédicateurs se mettent en avant et se vantent. Il y a certains prédicateurs qui vont sur Twitter. Twitter, qui est appelée la plateforme Regardez-moi. Tous les jours. Oh, regardez-moi, écoutez-moi, regardez-moi, écoutez-moi, tous les jours. Rien de ceci dans la vie de l'apôtre Paul. Ses infirmités, C'est là ce qu'il met en avant, la puissance de Dieu qui œuvre en lui, un être humain faible. Nous n'admirons pas l'individu, mais nous voyons la bénédiction du Saint-Esprit. Et mon quatrième point, ses souffrances étaient là pour maintenir son humilité. Au 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, vous connaissez ce passage. « Et de peur que je ne m'élève trop à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis dans la chair une écharde, un ange de Satan, pour me souffleter, afin que je ne m'élève point. » Dieu a mis ces choses dans sa vie. Ce n'était pas Satan, c'était Dieu qui a permis ces choses, et Satan l'a utilisé. Dieu lui a donné une écharde dans la chair, et Satan l'a utilisé pour le tourmenter. Au verset 8, « Trois fois j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer. Mais il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. Mes infirmités, mes maladies, ma faiblesse, mes persécutions, afin que la force de Christ habite en moi, et que toute la gloire soit rendue à Christ d'une manière évidente. » Et il nous dit quelque chose de similaire dans 2 Corinthiens chapitre 4. Cette épître est pleine de ces choses, et au verset 10 où nous lisons ceci, « Nous portons toujours en notre corps la mort du Seigneur Jésus, l'offense de la croix, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » Tout est là pour maintenir son humilité par ses limites. Et en revenant au chapitre 12, verset 7, de peur que je ne m'élève trop. Être revêtu d'humilité. L'apôtre Pierre dit « Soyez revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. » De même, nous, quand nous souffrons, peut-être que c'est là pour nous humilier, pour que nous restions humbles et dépendants de lui devant le Seigneur. Ces choses sont essentielles. J'aimerais lire dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 20, verset 25, c'est un passage très important. « Et Jésus, les ayant appelés, leur dit, « Vous savez que les princes des nations les dominent et que les grands leur commandent avec autorité, mais il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier entre vous, qu'il soit votre esclave. Comme le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » L'apôtre Paul est resté humble grâce à ses souffrances. Même s'il était apôtre avec une autorité particulière, avec une révélation particulière, il n'a jamais inauguré quelque chose qui ressemble à l'Église de Rome, l'Église catholique, avec un pape et des archevêques et des évêques et des vêtements splendides et des palais dans lesquels ils vivent. Nous avons pas loin d'ici le palais de l'archevêque. L'apôtre Paul n'avait pas un palais d'archevêque et l'apôtre Pierre non plus. C'est opposé à tout ce qui est dans l'Écriture. Le Seigneur dit « Je vais vous utiliser. Si vous êtes humble, je vais vous bénir. » Et les souffrances, les difficultés, les obstacles sont là nos amis parce que ces choses nous permettent de rester humbles. Et toute la gloire est rendue au Seigneur. Non pas par la force, dit le Seigneur, non pas par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et l'apôtre Paul a souffert, ses souffrances l'ont gardé humble. Une autre raison pour la souffrance de Paul, c'est que ces choses lui ont été données pour inaugurer dans l'Église et promouvoir quelque chose de particulier pour nous, c'est le ministère du réconfort. J'aimerais lire dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Ces versets sont si précieux. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelque affliction. » C'est là l'un des buts de la souffrance, pour chacun d'entre nous, et ici, dans la vie de l'apôtre Paul. Ces souffrances et difficultés lui sont données, pour que, à son tour, il puisse réconforter les chrétiens de Corinthe. Et chaque moment de souffrance que nous avons, et Dieu nous soutient en cela et nous aide, et nous délivre de cette pitié de nous-mêmes. Nous avons une tâche, une dette, un devoir de réconforter les autres. Au verset 5, « Car comme les souffrances de Christ abondent en nous, ainsi notre consolation abonde par Christ. » Et nous devons donner ces choses à notre tour. Et soit que nous soyons affligés, c'est pour votre consolation et votre salut qui s'opère dans la patience avec laquelle vous endurez les mêmes maux que nous souffrons aussi. Soit que nous soyons consolés, c'est pour votre consolation et votre salut. Elle continue en disant que l'espérance que nous avons de vous est ferme. Nous sommes sûrs que nous pouvons vous faire confiance pour passer également votre réconfort à d'autres. Ainsi, les souffrances de l'apôtre Paul sont le début de cette grande chaîne de chrétien en chrétien, du ministère du réconfort, de la consolation, de l'encouragement. Il y a tant de buts dans ces souffrances. Dans Actes chapitre 20, nous lisons que l'apôtre Paul dit qu'il a servi le Seigneur en toute humilité. C'est là ce que le Seigneur nous demande. Vous ne voyez pas ceci dans la structure de l'Église catholique ou dans le ministère des prédicateurs de la prospérité qui se mettent constamment en avant et qui ont des jets privés et des villas et tant de richesses. Ceci n'a rien à voir avec le christianisme, même s'ils se disent chrétiens. Les souffrances de l'apôtre Paul, c'est pour nous enseigner ces choses. Et également, mais notre temps est si limité. Les souffrances de l'apôtre Paul démontrent la dureté du cœur humain. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait de pays en pays et il passait par la mer, il voyageait tant pour prêcher le pardon, la vie éternelle, pour amener le bonheur aux gens et l'espérance. Et cependant, il le haïssait. Le cœur humain est si dur. Rien ne montre plus la dureté du cœur humain. Même dans ce pays, vous voyez ceci dans notre histoire, il y a eu des temps de réveil. Et beaucoup de gens se sont tournés vers le Seigneur. Et en conséquence, dans certaines périodes, une grande partie des gens de ce pays adoraient Dieu et croyaient dans la Bible. Mais, alors que le temps passait, leur cœur est devenu orgueilleux et dur. Et ils ont continué à aller à l'église. Mais ils ne croyaient plus dans la repentance et dans la rémission des péchés, dans la nouvelle naissance et dans la mort expiatoire de Christ. Et, surprise, surprise, ils haïssent tous ceux qui prêchent l'Évangile. Vous lisez les prédications des puritains, et c'était là leur problème. Tout le monde allait à l'église, tout le monde croyait dans les doctrines de la parole de Dieu, mais ils n'étaient pas sauvés. Et les puritains, dans leurs prédications, ils passaient beaucoup de temps à essayer de prouver aux gens qu'ils n'étaient pas sauvés, et nous pouvons prouver ceci dans l'Écriture, à cause de ceci et de cela. Et dans beaucoup de cas, les gens les haïssaient. Et l'histoire se répète. J'ai mentionné Whitfield au XVIIIe siècle. Tous les gens allaient à l'église à l'époque, tous les gens croyaient en Christ et dans le christianisme, mais ils ont mis certaines choses de côté et leur cœur était dur et froid et ne croyaient plus dans la repentance, dans la croix de Christ, dans la nouvelle naissance, dans la nécessité de marcher avec lui. Et ainsi, Whitfield commence à prêcher. Par rapport à quoi ? Il ne prouve pas que Dieu existe, non, il croyait cela. Il ne prouve pas que la Bible est la parole de Dieu, non, il croyait en cela. Il n'essaie pas de prouver quoi que ce soit par rapport au christianisme, parce que ce n'était pas leur problème. Il disait, nous sommes chrétiens, nous sommes de bons chrétiens. Qu'est-ce qu'il prêche? Il prêche la nouvelle naissance. Vous avez besoin d'être né de nouveau. Vous avez besoin d'être transformé. Et ainsi, il le haïssait. Et ici, dans le parc de Kennington Common, il lançait des briques, il lançait ses briques vers George Whitefield. Et on lançait même des briques sur les enfants qui étaient sauvés et convertis. Ceci nous montre la dureté du cœur humain. Seule la grâce irrésistible de Dieu peut toucher les cœurs et amener les gens au Seigneur. Ne croyez pas dans le théâtre, ne croyez pas que si vous tenez en chair et que vous mettez en avant un prédicateur avec beaucoup de publicité, de spécialistes de ci et de ça, que les gens vont écouter. Non, ils vont uniquement écouter s'il y a une œuvre du Saint-Esprit dans leur cœur. Tout ce que nous faisons, c'est nous prêchons et nous prions. C'est là l'œuvre du Seigneur. Et nous apprenons de l'apôtre Paul la dureté du cœur humain. Et j'en arrive à ma conclusion. Les souffrances de l'apôtre Paul sont là pour approfondir son désir pour la gloire. Nous pourrions passer toute une prédication sur cela. Nos souffrances devraient avoir cet effet d'approfondir notre désir pour la gloire céleste. 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 14. Ces paroles remarquables. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera comparaître avec vous, car toutes ces choses sont pour vous, afin que cette grâce, se multipliant, abonde en actions de grâce d'un grand nombre pour la gloire de Dieu. Écoutez ceci, c'est pourquoi nous ne perdons point courage. Et si notre homme extérieur se détruit, par le vieillissement, par la maladie, par la souffrance, par le fouet, le rejet, la privation, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre légère affliction, il appelle ça une légère affliction, notre légère affliction du moment présent produit en nous le poids éternel d'une gloire souverainement excellente. Puisque nous ne regardons point aux choses visibles, ne regardez pas aux choses qui sont visibles. Ne regardez pas dans votre maison, dans votre appartement, pour avoir beaucoup de choses belles. Oh, c'est légitime d'avoir de belles choses, mais n'y mettez pas votre cœur, que ces choses matérielles ne soient pas votre fierté, ce de quoi vous dépendez. Nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles, les choses futures, la gloire céleste, Christ, car les choses visibles sont pour un temps. Elles vont passer, elles sont matérielles, elles n'ont aucune substance, mais les choses invisibles sont éternelles. Et tout cela, c'est pour approfondir notre désir pour la gloire céleste. Isaac Watts l'exprime d'une manière merveilleuse dans un cantique. Oh, ce n'est pas dans nos cantiques de nos jours. Ceci est dans le cantique quand je contemple la croix de Christ. Et ceci est sur ce sujet même. Son sang versé, lui qui meurt, il donne son corps sur la croix. Ainsi, je suis mort à tout le globe, et tout le globe est mort pour moi. Le globe, c'est le monde. Quand vous considérez Christ, sa mort expiatoire si extraordinaire, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a payé pour nous, et sa gloire éternelle, et tout ce qu'il a donné pour nous, alors vous mourrez à ce monde. Les choses auxquelles vous aspirez ont de moins en moins de valeur pour vous. C'est là ce que l'apôtre Paul dit. Nos souffrances nous aident, petit à petit, de plus en plus, à mourir à ce monde et à penser de moins en moins à ce monde. Et ce monde a de moins en moins de valeur dans notre vie et à penser plus à Christ, à sa gloire, à sa merveille, à son œuvre. Les souffrances de l'apôtre Paul sont là pour approfondir son désir pour la gloire céleste. Notre temps est passé pour authentifier l'appel de l'apôtre Paul, pour montrer son cœur d'amour pour les racheter. Ses souffrances montrent ses limites. Voyez comment ces choses maintiennent son humilité et la nôtre, et l'équipe pour le ministère du réconfort. Vous avez besoin de souffrir pour réconforter d'autres. Ces choses démontrent la dureté du cœur, le rejet qui sera toujours là, et ceci approfondit notre désir pour la gloire céleste.